Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Dernière partie d'Europe Soir avec, vous avez l'habitude, des débats de panorama jusqu'à 20h avec nous en studio, le professeur Christian Boitard. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, professeur émérite en immunologie clinique à la Sorbonne Paris-Cité. Avec nous à distance, le professeur Éric Vivier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'immunologie à Marseille, directeur scientifique d'Innate Pharma, c'est une société de biotechnologie, et président du Paris-Saclay Cancer Cluster. Et bonsoir au professeur Patrick Couvreur. Vous êtes professeur émérite à l'Institut Gallien Paris-Saclay, et je dois dire que vous êtes en tout cas avec l'IGPS et l'Université Paris-Saclay de CNRS le pionnier du nanomédicament. Cette crise de la recherche, ce déficit à la fois de moyens et pas seulement financiers, professeur Christian Boitard, comment est-ce qu'elle intervient aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle représente ?
Elle représente quelque chose de très important pour l'avenir du pays. Vous savez, je crois que dans la République, il y a vraiment deux piliers, hein, qui sont la transmission de la connaissance et la recherche de la connaissance. Et puis, il y a une autre donnée que je crois très importante, c'est que la qualité des soins ne va pas sans une qualité au moins équivalente de la recherche. Alors, pourquoi on est inquiet ? On a commencé à travailler à l'Académie de médecine, hein, avec plusieurs, en particulier Bruno Clément, Patrick Netter, Francis Michaud, Pierre Moniosek, Arnold Migus, sur l'état actuel de la recherche en biologie santé, avec un certain nombre de surprises.
La biologie santé, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ?
C'est toute la recherche en biologie.
Oui. Hein,
et c'est toute. Et puis la recherche en santé, ça va de l'amont, qui est de la recherche fondamentale. Hein. Vous observez un fait dans une cellule, vous voulez l'étudier. Ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est vous observez un fait au cours d'une maladie et vous l'étudiez par les mêmes techniques. Et puis la recherche clinique, c'est d'essayer de démontrer chez le patient ce qui a été apporté par la recherche d'amont.
Alors, on va faire quand même une petite précision sur ce que représente tout cela. Capucine Patouillet, où est-ce qu'on en est concrètement sur la recherche biomédicale en France à ce jour ?
Eh bien, à ce jour, la France, pourtant considérée comme une référence en la matière, est passée de la 5e place au rang des pays de l'OCDE en 2000 à la 10e place actuellement en termes de publication et la 17e place en matière d'innovation biotechnologique. La France ne consacre plus que 2,1% de son produit intérieur brut à la recherche biomédicale, contre 3% pour nos voisins allemands par exemple, comme le prévoit depuis 2000 le traité de Lisbonne pour la recherche européenne. Plus alarmant encore, sans les mécénats et autres crédits impôts recherche, l'État ne participe qu'à hauteur de 0,8% du PIB dans son financement. Il y a deux ans pourtant, en décembre 2020, une loi de programmation de la recherche devait même faire de la discipline une priorité nationale, fait non négligeable surtout dans un monde post-pandémie. En résulte, un millefeuille administratif compliquant toutes les démarches de recherche, mais aussi un manque de coordination, tant au niveau international qu'entre les différentes instances, surtout les ministères de la Santé et de la Recherche, une attractivité déclinante des fonctions universitaires et une désuniversitarisation des CHU, pourtant créée autant pour produire des soins que pour former et progresser en matière de recherche, soit l'ordonnance du 30 décembre 1958. À ce jour, le nombre de démissions de médecins hospitalo-universitaires est inédit. En 3 ans, 139% d'entre eux, jeunes et récemment nommés, sur les 6000 que compte la profession, ont démissionné, dont 18% pour devenir de simples praticiens hospitaliers.
Professeur Éric Vivier, qu'est-ce qu'on fait contre ces démissions en cascade, contre, j'allais dire, ce mal-être presque, j'ai l'impression, dans la recherche santé ?
Alors effectivement, bon, il ne faut pas non plus noircir le tableau. C'est sûr qu'il faut être vigilant. Il faut quand même bien avoir en tête que la France a une excellence, une histoire d'excellence dans le domaine de la recherche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains paramètres peuvent nous alerter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut quand même se féliciter, me semble-t-il, que dans le cadre du plan France 2030, il y a un volet santé, un volet innovation santé qui a été proposé par les pouvoirs publics avec quand même un investissement de 7,5 milliards d'euros pour contribuer à faire de la France la nation la plus innovante et souveraine en santé en Europe. Donc, pour l'instant, le programme est lancé. En particulier, il y a de nouveaux objets qui vont voir le jour, en particulier des clusters, c'est-à-dire des concentrations sur un même lieu de tous les acteurs d'un domaine particulier. Dans le domaine du cancer, nous, à Paris en particulier, oui. On réunit des laboratoires de recherche, des industriels, des financiers, des investisseurs, de telle manière à faire en sorte de transformer les résultats de la recherche en une meilleure prise en charge des patients. Donc, bien sûr, je rejoins Christian Boitard dans le fait qu'il faut rester vigilant, mais maintenant, il faut aussi être, je pense, ouvert aux possibilités qui sont proposées par le gouvernement dans le cadre du plan France 2030.
Qu'en pensez-vous, Christian Boitard ?
Oui, je pense que c'est très important, mais c'est fondamental parce qu'on part de bas. Hein. On consacre, si on prend tout l'argent qu'on met dans la recherche publique, on en met dans la biologie santé 18% actuellement. Pour vous donner un ordre de grandeur, les États-Unis mettent 50%. La Grande-Bretagne met 50%. L'Allemagne met un petit peu moins. Mais comme l'Allemagne met 3,2% de son PIB dans la recherche, là où nous, on met 2,3% sur le dernier chiffre, 2,2%, 2,3%, ça veut dire que dans biologie santé, on met trois fois moins. Donc ça, c'est une situation difficile.
Mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Vous savez, quand il y a eu le traité de Lisbonne, il a été décidé qu'il fallait que les pays aillent à 3% de PIB de leur PIB dans la recherche.
Capucine,
ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la France est un des pays qui a poussé à ça. Et comme je dis parfois, il y en a même d'autres qui l'ont fait. Nous, par contre, en euro constant, les crédits alloués à la biologie santé à 11 ans, on a fait le calcul, Arnold Mingus a fait le calcul, que ça a diminué de 20%, d'un peu plus de 20%. Hein. Alors, il y a le problème financier, mais il n'y a pas que le problème financier. Il y a aussi le problème d'organisation.
Oui, et de l'attractivité, d'après ce que je comprends.
Et aussi un problème d'attractivité.
Qu'en pense le professeur Couvreur ?
Bah écoutez, le professeur Couvreur, il est exactement du même avis que ce qui vient d'être dit par votre journaliste d'une part et par Christian Boitard d'autre part. Il est évident que la France souffre actuellement. Il faut savoir que la France a quand même été pendant longtemps, notamment dans le domaine du médicament, qui est un côté important de la biologie santé, a été un des pays majeurs dans la découverte de nouveaux médicaments. Et de nouveaux vaccins aussi d'ailleurs. On voit bien qu'avec le Covid, malheureusement, aucune thérapeutique n'a été développée sur le territoire national et aucun vaccin non plus.
Ça nous poursuit. Ça nous poursuit, Patrick Couvreur. C'est le fait que Sanofi n'ait pas réussi à faire un vaccin, contrairement à d'autres maisons.
Alors, c'est peut-être pas que Sanofi. Vous savez, en matière de recherche, il faut aussi de la chance. Je dirais que c'est surtout le fait que nous n'avons pas, en particulier, un environnement suffisamment attractif pour créer des start-up qui soient pérennes. Parce que vous l'avez bien vu, et ce n'est qu'une illustration, dans le domaine du vaccin à ARN messager, donc encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, c'est une technologie qui est absolument nouvelle, on peut même dire révolutionnaire, pluridisciplinaire, et malheureusement, ce sont des start-up soit américaines, soit allemandes aussi, il faut le dire, qui ont cru dans ces technologies, qui les ont développées et ensuite qui les ont mises sur le marché. Et nous n'avons pas suffisamment, je pense, dans notre ADN français, la culture de la création de start-up pérennes avec les financements, notamment de capital risque, qui doivent aller pour consolider dans le temps ces sociétés innovantes.
C'est assez étonnant ce que vous dites.
Et ça, c'est évidemment...
C'est assez étonnant quand on voit les fameuses... On fait quand même beaucoup de publicité autour des licornes françaises, autour des levées de fonds, sur les start-up, sur les... Alors peut-être pas justement dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines, ça marche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans la santé ?
Oui, alors moi je vais surtout vous parler du domaine de la santé que je connais bien, c'est le médicament, puisque j'ai créé plusieurs startups dans le domaine des nanomédicaments.
Vous avez fait ces startups en France, j'imagine.
Oui, ben BioAlliance, une qui est rentrée en bourse, notamment.
Voilà.
Puis MedSqual aussi. Oui, mais bien sûr, mais il faut voir les choses plus globalement. Ce qui est absolument évident, je dirais, c'est que l'environnement n'est pas suffisamment attractif d'une manière générale. Il y a des start-up qui réussissent, mais on voit bien qu'en France, si on compare par exemple avec des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, etc., on crée probablement autant de start-up. Parce qu'on dit parfois que la France ne crée pas de start-up dans le domaine de la biologie santé, du médicament. Bon, c'est pas vrai, on crée suffisamment, je pense, de start-up. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas pérennes. Et ceci est dû à un manque de capital risque. Ben, parce que, si vous voulez, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la France souffre, ça a été dit, d'un empilement de structures très difficile à comprendre pour les gens qui investissent en venant de l'étranger, en particulier, par exemple, des États-Unis. Il y a les SAT, il y a BPI France, il y a les pôles de compétitivité, il y a les universités qui encouragent aussi les start-up, les grands organismes de recherche qui ont aussi, je dirais, des structures qui favorise la création de start-up, la direction de l'innovation des CHU. Donc, si vous voulez, tout ça est très compliqué à comprendre quand on vient de l'extérieur, quand on veut investir. Et il est absolument indispensable maintenant, je pense, de simplifier les choses, d'avoir en particulier un guichet unique. Et puis, un point qui me semble aussi important, c'est que les start-up doivent bénéficier d'un accompagnement de meilleure qualité avec, je dirais, des vrais professionnels qui connaissent bien le développement des médicaments, le développement pharmaceutique, les aspects réglementaires, les aspects de marché, etc. C'est la qualité de l'accompagnement aussi, je pense, qui doit être revue. Je sais qu'il y a de l'accompagnement au niveau des SAT, etc., mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis, je dirais que le dernier élément qui me semble important, c'est d'éviter les effets de mode. On a trop tendance à arrêter trop vite un projet innovant à la moindre difficulté. Et c'est ce qui a fait...
Quel genre de difficulté ?
Eh bien, par exemple, si vous voulez, prenons le cas de Moderna, qui a mis le vaccin ARN messager sur le marché pour le Covid. Moderna, ça fait une décennie que Moderna travaille pour développer des vaccins pour faire de l'immunothérapie du cancer. Il n'y a aucun médicament qui a été mis sur le marché pendant cette décennie. Moderna n'a pas vraiment gagné de l'argent. Mais les capitaux risqueurs ont continué à croire en la technologie, ont continué à financer malgré les revers que Moderna a pu avoir. Et c'est vrai aussi pour BioNTech, l'autre vaccin. Et puis, il y a eu le Covid. Et comme c'est une technologie qui était relativement souple, agile, ils se sont repositionnés très très vite sur le vaccin contre SARS-CoV-2 et ça a marché.
Éric Vivier, vous qui disiez qu'il ne fallait pas noircir le tableau.
Non, écoutez, premièrement, donc, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a quand même des chiffres à mettre en perspective. Aujourd'hui, pour passer du résultat de la recherche fondamentale à un médicament approuvé, il faut à peu près 20 ans et 1 milliard d'investissements. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Donc, bien évidemment, c'est compliqué. Nous-mêmes, pour avoir créé une société de biotechnologie qui s'appelle Innate Pharma, qui a maintenant 23 ans, qui est cotée au Nasdaq, on sait quelles sont toutes les difficultés. Et je pense qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas négliger. Premièrement, c'est avant tout un état d'esprit. Patrick Ouvreur a parlé d'une culture et je pense que c'est un point extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, les enseignants du MIT ont l'obligation d'investir une journée par semaine de leur temps dans un projet industriel. Je crois que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir au moment où il y a encore trop de frilosité.
Oui, il faut qu'on change de méthode.
De beaucoup de nos collègues. Oui, et surtout d'état d'esprit. Et quelque chose de fondamental aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé là dans cette conversation du passage de la recherche aux médicaments ou en innovation thérapeutique, mais il ne faut pas oublier que tout ça ne peut se faire que s'il y a un écosystème très important, très riche en biologie totalement fondamentale. Les grandes découvertes de rupture ne sont généralement pas venues d'une volonté de l'amélioration de quelque chose. On prend souvent cet exemple, on n'a pas inventé le laser en voulant améliorer la bougie. Par contre, on a inventé le laser parce qu'il y avait donc une recherche fondamentale très riche. Donc je pense que pour que la France puisse effectivement sortir d'une situation qui est effectivement très préoccupante. Il faut encourager les partenariats publics-privés, de telle manière à ce qu'il y ait plus d'investissements privés. Il faut aussi encourager les élèves, je parle d'élèves, hein, pas simplement d'étudiants, aux carrières de la recherche, qui sont des métiers passionnants, où on va défricher pour essayer de mieux connaître, et c'est quand même extraordinaire de pouvoir le faire. Il faut revaloriser aussi les salaires de notre secteur, qui sont largement inférieurs à ceux qu'on peut trouver à l'étranger, et puis libérer effectivement cet état d'esprit de telle manière que cette recherche fondamentale soit favorisée à pouvoir être traduite en amélioration de la prise en charge des patients.
Christian Boitard, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de « il faut »,« il y a qu'à », »,« faucon », et ça commence, Éric Vivier l'a dit en fin de liste, mais... Il y a quand même l'attractivité avec les salaires des chercheurs. Quand même. C'est pas un tabou. Que fait la police ? Que fait l'Académie de médecine pour convaincre le gouvernement ?
L'Académie de médecine, elle fait ses rapports. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez entendu parler du Ségur de la santé,
oui,
à l'occasion du Covid. Oui. Le ministère de la Santé avait oublié une seule chose. C'est qu'il y avait des universitaires dans les CHU. Et donc, il a traité le programme, il a traité le problème des médecins, etc. Il a complètement oublié les universitaires.
Ben, vous êtes là aussi pour dire,
Oui, c'est ce qui a été dit.
Ouais.
Mais ça a été fait, donc il y a eu des réunions après. Mais le fait d'avoir complètement oublié est quand même quelque chose, moi, qui m'impressionne, parce que c'est vraiment un tissu d'ensemble. Pour revenir sur ce qui a été dit sur les start-up, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Mais on a besoin aussi d'un tissu industriel derrière. Et si vous regardez le tissu industriel de la pharmacie aujourd'hui en France par rapport à il y a 40 ans, vous allez avoir le vertige. Hein. Et donc, on a perdu une partie de notre savoir-faire, comme dans d'autres domaines.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'on parle beaucoup de la batterie, notamment de la batterie électrique. On parle de l'énergie énormément en ce moment pour le médicament. Dernièrement, je crois qu'il y a eu une pénurie de paracétamol et on a découvert que tout venait d'Asie. Donc on a découvert on découvre cette crise, c'est plus des crises, ce sont des chocs, c'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais au monde d'avant. Ces chocs nous font découvrir de plus en plus de manque de souveraineté de la France.
Oui, mais le paracétamol aujourd'hui, ça n'est plus une molécule originale.
Mais oui.
Donc l'importance, on le voit à propos du Covid, être dépendant de l'étranger et de la recherche à l'étranger pour les vaccins du Covid, c'est à mon avis un problème. Quand vous pensez que même un pays comme Cuba a fait un vaccin.
Mais alors, comment on résout tous ces problèmes ? Pardonnez-moi de me répéter, alors, vous me dites qu'on a un rapport. Très bien, mais il commence par où ? Il dit quoi ? Quel est son impact sur ce qui va se passer maintenant ?
Dans le bilan, il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé. La complexité du système, par exemple. Et on a bien vu
Éric Vivier
ce qu'on dit, Éric.
Hein, oui. Ouais.
Et aussi bien Patrick que Eric, il y a un millefeuille administratif pour l'innovation, mais il y a aussi un millefeuille administratif pour l'organisation de la recherche. Le nombre d'organismes nationaux de recherche qu'on a en France est très supérieur à celui, par exemple, qu'on trouve en Angleterre.
Mais ça se règle, non ? Enfin, à un moment donné, on dit on arrête et on fait une seule instance.
On n'est pas tout à fait parti pour le régler.
Mais
vous regardez les agences,
il y a des batailles d'égo ?
Chaque fois qu'on a un problème... Ouais. De santé publique, on crée une agence. Le sang contaminé, l'histoire de la vache folle, et là, on va créer une agence de l'innovation. Quels vont être les liens de cette agence avec les organismes d'où débute l'innovation, c'est-à-dire les organismes qui font la recherche, en particulier fondamentale.
Mais moi, je veux bien, mais je parle...
Il n'y a pas de coordination.
Je suis en train de parler à trois médecins, quand même. Là. Les médecins, c'est à chaque problème une solution. C'est quoi votre solution, Christian Boitard ?
C'est de mettre en place une coordination de tous les acteurs de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique et qui soit effective. Pensez par exemple qu'aujourd'hui le pilotage de la recherche clinique en France, il est totalement indépendant, sous l'égide du ministère de la Santé, du reste de la recherche en biologie qui est traitée par l'ANR et le ministère de la Recherche. Alors qu'il faudrait une continuité entre les deux.
Quelles sont les chances que vous soyez écouté ?
Écoutez, j'ai l'impression que la France, elle a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, est-ce que vous avez entendu beaucoup le mot recherche pendant les dernières élections ? Moi, peut-être que je perds un peu de l'audition, mais je l'ai assez peu entendu. Hein. On a entendu parler des soins, des déserts médicaux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité des soins, est corrélée à la qualité de la recherche. La recherche, vous n'en avez pas entendu parler. Très peu. J'ai entendu le mot une ou deux fois.
Un dernier mot, Patrick Couvreur.
Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a peut-être, pour régler les problèmes, puisqu'il faut quand même être positif, il y a deux choses. La première chose, c'est l'attractivité des métiers. Moi, vous savez, je suis d'origine belge. J'ai obtenu un poste de professeur à l'université Paris-Sud à l'époque, donc en 1984. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, les salaires des professeurs, donc moi je suis pharmacien, des professeurs de pharmacie ou de médecine, étaient très supérieurs en France à ce qu'ils étaient en Belgique. Et bien maintenant c'est l'inverse. Donc vous voyez, il y a eu petit à petit au cours du temps une érosion, malgré tout, des salaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs, pas uniquement dans le domaine de la biologie santé, c'est général à la recherche, qui fait que maintenant on peut dire que, et je le vois parmi mes étudiants en thèse, de moins en moins veulent rentrer dans une carrière scientifique de recherche. Donc un premier point, oui, à mon avis, extrêmement important, c'est l'attractivité. Et le deuxième, très rapidement, c'est ce qui a été dit, c'est qu'on est noyé par une bureaucratie galopante avec un empilement de structures qui est absolument incompréhensible.
C'est ce qu'on a dit. Donc il faut simplifier.
Et il faut essayer de simplifier tout ça. Voilà, voilà les deux solutions, à mon avis.
Autre point aussi, dans les CHU, puisqu'il était question dans ce colloque des CHU, on pense que la gouvernance des CHU est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialiste de la recherche dans cette gouvernance. Et il faut remettre, comme en Hollande, il faut remettre des scientifiques ou des médecins dans le pilotage de ces structures.
Et ben voilà, on a des pistes pour l'avenir. Merci à vous trois. C'est la fin de cette émission.